Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
Face au bruit envahissant nos villes et souvent nos campagnes, les oiseaux ont fini par se taire. Mais quand autos, motos, avions et moteurs de toutes sortes se sont arrêtés, alors, pour le plus grand bonheur des hommes, les oiseaux se remirent à chanter. Ce fut une retombée positive du confinement auquel nous fûmes tous contraints du fait de la pandémie. Besoin de silence, de calme, la vie des oiseaux ressemble parfois étrangement à celle des humains. C'est ce que dit Éric Sablé. Merci à Jacqueline Dorjex d'ouvrir pour nous l'ouvrage de cet amoureux des oiseaux qui allie connaissance et poésie. Et son livre s'intitule « La sagesse des oiseaux » et il est paru aux éditions Zulma. Jacqueline Dorjex, bonjour.
Bonjour.
Jacqueline Dorjex, bonjour. Voilà. Alors, parlez-nous de cet homme. Qu'est-ce que vous en savez ?
Eh bien, c'est un homme qui habite à Toulouse, mais qui voyage énormément, qui est passionné par les oiseaux, qui est également traducteur et qui s'est beaucoup intéressé à la spiritualité dans le monde entier.
Alors, il a dit qu'il était né sous le signe du cancer, ce qui prédispose à l'envol de l'imaginaire. Ça, je ne savais pas. Alors, amateur à ceux qui sont nés. Voilà, il a une prédilection également pour les spiritualités orientales. Oui. Et il s'intéresse à des mystiques chrétiens comme Angelus Silesius ou le Maître Eckhart. Alors, écoutez, Maître Eckhart, moi, ça m'intéresse toujours parce que c'est un dominicain allemand du XIIIe siècle dont la pensée repose sur deux piliers. L'importance du détachement qui permet par la place qu'il laisse à Dieu dans l'âme, de progresser dans la vie spirituelle, et la foi en cette certitude que c'est la Trinité tout entière qui vient habiter l'âme de celui qui s'abandonne à Dieu. Voilà pour Maître Eckhart. Alors, pour revenir à cet auteur que vous avez choisi, Éric Sablé, donc, il est passionné par les oiseaux, évidemment, il a rédiger des livres pour enfants. Il a créé une maison d'édition. Il sait faire des tas de choses. Terre Blanche, dont l'objectif est de rendre accessibles des textes inédits, issus des anciennes traditions hindouistes ou bouddhistes. Et il dirige, à côté de cela, une collection intitulée « Chemin de sagesse » aux éditions Dervy. Alors, Jacqueline Dorjex, pourquoi avez-vous choisi justement cet ouvrage, « La sagesse des oiseaux »
D'abord parce que cet ouvrage m'a été offert par un grand ami il y a longtemps et il m'avait mis une petite dédicace dans laquelle il disait « Éric Sablé, ce Toulousain, parle des oiseaux comme Roland Barthes parle d'amour ». Alors j'ai trouvé que c'était une comparaison assez intéressante parce que Barthes a dit, évidemment lui il parle de la langue et du langage, il a dit « le langage est une peau ». Je frotte mon langage contre l'autre. J'enroule l'autre dans mes mots. Alors bon, on peut dire que...
L'oiseau.
Les oiseaux aussi. Bon,
avec leur chant, ils nous enroulent.
Oui, ils nous enroulent. Et puis ensuite, bon, je vis à la campagne, donc j'écoute et j'observe beaucoup les oiseaux. Les corbeaux en particulier, qui sont parmi les plus intelligents des oiseaux et qui chassent beaucoup les pigeons.
On en parlera parce qu'il y a...
Et alors là, je suis très contente parce que les pigeons, ce sont les seuls oiseaux que je n'aime pas parce qu'ils détruisent les toitures.
Oui, il y en a qui disent que ce sont les rats des villes.
Oui,
comment se présente cet ouvrage ?
Alors cet ouvrage, ce sont 40 tout petits chapitres qui font une demi-page, une page et demie maximum, où il y a toutes sortes de chapitres. Il y en a qui traitent de la migration, d'autres de la sexualité, d'autres de Saint-François d'Assise.
Oui, c'est très diversifié.
C'est très diversifié, mais évidemment toujours par rapport aux oiseaux.
Oui, et alors j'ai lu les propos d'un ornithologue professionnel qui a dit évidemment ce n'est pas vraiment de l'ornithologie au
non,
sens
pas
propre,
du tout. D'ailleurs, il se
mais il y a des informations très intéressantes.
Et qui sont vraies.
Et voilà, vraies de toute façon. Et justement, c'est un ouvrage, dit-il, c'est très agréable à lire.
Oui, parce qu'on peut lire une petite page de temps en temps, donc c'est un livre qui est très ludique.
Alors, évidemment, il parle de la vision, de ce que l'on voit, de la beauté de ces oiseaux, de leurs couleurs, de leur langage, de leur chant. On parle aussi de l'âme des oiseaux. Alors,
l'âme des oiseaux, oui, c'est très curieux, parce que c'est un des premiers chapitres, tout à fait au début du livre.
Oui.
Et il dit qu'on a pesé quelqu'un avant sa mort et qu'on l'a pesé après. Et il y a exactement 23 grammes de moins. Donc, on peut penser que l'âme pèse 23 grammes. Et alors, Éric Sablé dit que, sans doute, cette âme est comme un oiseau. Vous pouvez le lire si vous voulez, parce que c'est très joli.
Alors, je vais lire la fin, si vous voulez bien, oui. Jacqueline Dorjex. J'imagine cette âme oiseau fragile, minuscule, frileuse, une petite masse de plumes colorées, délicates, légères, prêtes à disparaître et pourtant indestructibles. Pour le poète soufi, l'âme oiseau a la nostalgie du bleu du ciel, elle aspire au grand envol, elle veut secrètement la lumière des hauteurs transparentes. Elle est donc ressentie comme une poussée ascendante, une volonté d'échapper à la pesanteur, à la gravité. Car il y a une malédiction de la gravitation. Pour cela, l'homme du mythe se vit toujours tombé de quelque paradis sur une terre maudite parce que pesante. Ainsi se révèle le rêve secret de l'homme, devenir oiseau. C'est très beau.
C'est très joli. Et puis, effectivement, on se dit, cette âme, si elle pèse 23 grammes, c'est vraiment très très peu. Donc, ça pourrait être un tout petit oiseau.
Alors, il parle également des anges. Il parle des anges et il dit, les anges ont des ailes, évidemment.
Oui.
Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cela? On a choisi de mettre des ailes aux anges.
Non, là, il en parle d'une façon, en disant que vraiment, ce n'est pas forcément des oiseaux. D'ailleurs, Roland Barthes, non, c'est Rilke qui a parlé de ça aussi. Il a dit, les anges, c'est dangereux oiseaux de l'âme. Alors, je pense que pour Rilke... il ne voyait que le côté négatif des anges.
Oui, peut-être. Évidemment, il n'y a pas que les bons anges, on a trouvé...
Il y a les anges maudits.
Et voilà. Alors, mais en même temps, moi, en pensant à ça, aux anges justement, je pensais, j'ai vu la pose de la statue de Saint-Michel sur le mont Saint-Michel, oui. Puisqu'elle a été redorée, elle est magnifique. Et par hélicoptère, elle est arrivée et on l'a installée.
Oui.
C'est d'une beauté incroyable.
Oui, c'était un peu comme un oiseau qui arrivait du ciel et qui était posé sur en haut du bâtiment. C'était très joli aussi.
Oui. Voilà. Et alors, on s'interroge, est-ce que les oiseaux sont comme les humains?
C'est-à-dire, dans son livre, il fait un parallèle un peu entre notre façon d'agir ou d'aimer ou de nos différentes choses. Est-ce que c'est les oiseaux qui nous influencent ou est-ce que nous influençons les oiseaux? Quel est un peu le rapport? Par exemple, au sujet du plaisir, il dit qu'il y a des oiseaux qui chantent, évidemment, pour délimiter leur territoire ou pour s'appeler ou pour différents. Mais il y a aussi des oiseaux qui chantent uniquement pour le plaisir de chanter.
Pour le plaisir de
chanter. Quelquefois aussi, ils sautent, ils dansent, ils volent pour le plaisir. Et nous aussi, nous pouvons faire certaines choses uniquement pour le plaisir.
Alors, vous avez souhaité que l'on écoute Kathleen Ferrier.
Ah oui, parce que vraiment, la voix de Kathleen Ferrier, sa voix, c'est...
Un chant d'oiseau.
C'est céleste.
Voilà.
C'est céleste comme sont les
oiseaux.
Voilà,
parce que le chant, finalement, c'est vrai que ça nous porte vers des cimes.
Oui.
Et c'est vrai qu'on chante également pour le bonheur de chanter d'entendre chanter.
Et pour le plaisir aussi.
Et pour le plaisir, voilà.
Et pour faire plaisir aux autres.
Alors, on écoute de Bach, Agnus Dei, chanté par Kathleen Ferrier. Ah. Alors évidemment, le générique change après la voix de Kathleen
Ferrier.
J'arriverai à dire son nom quand même. Kathleen Ferrier, qui a une très belle voix, effectivement. Alors, nous parlons donc de cet ouvrage d'Éric Sablé, composé de 49 petits chapitres, qui très diversifiés. Alors moi, j'ai essayé de rassembler quelques chapitres, par exemple leurs amours. Alors, parade nuptiale, je peux le lire peut-être, après je repasserai le livre. Parade nuptiale, certains oiseaux accompagnent l'acte sexuel de cérémonies étranges. Elles sont composées de danses, de battements d'ailes, de figures complexes. Par exemple, le chevalier combattant détermine une aire circulaire et se lance dans une série de danses désordonnées des heures durant jusqu'à atteindre un état proche de la transe. L'oiseau satin, qui vit en bordure des forêts de l'Australie orientale, commence sa parade en construisant une sorte de nid en forme de berceau fait de brindilles assemblées, puis dispose autour des objets fortement colorés en marquant une prédilection pour le bleu. Fleurs, plumes de perroquet, même bout de plastique, j'ai vu. Finalement, il utilisera un mélange composé de certaines baies bleuâtres, de charbon de bois réduit en poudre et de salive pour peindre l'intérieur de nids en bleu. Voilà que nous avons des artistes chez les oiseaux.
Oui, et puis qui en plus déteste ce qui n'est pas bleu.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Et alors, évidemment, de voir aussi les parades nuptiales, c'est à la fois très drôle, très intéressant. Certains sont magnifiques, avec des jabots, des plumes impressionnantes. Alors, on peut parler d'ailleurs de striptease. Alors là, c'est à la page...
28.
À la page 28, et je vous laisse le plaisir de lire cet extrait. Pardon.
Alors, striptease, ce sont... On parle des oiseaux, donc toujours. Les oiseaux qui possèdent ni seins, ni hanches, ni cuisses, stimulent sexuellement leur partenaire en ouvrant le bec tout grand. Ils révèlent ainsi un intérieur qui est d'un beau noir chez les fous de Bassan, rouge brillant chez les hardes couronnées, jaune vif chez les cormorans, rouge orangé chez les mouettes tridactyles, bleu mauve chez les fulmars, vert émeraude chez l'oiseau de paradis, l'action de ces bâillements est irrésistible. Le partenaire est magnétiquement attiré et ne peut résister aux magnifiques couleurs ainsi révélées. Par la suite, le mâle offrira de la nourriture à la femelle. Certains, comme le corbeau, se tiendront le bec réciproquement en un baiser prolongé.
Donc il y a énormément de variantes.
Oui, il y a beaucoup de variantes et en fait c'est quand même la séduction, c'est en ouvrant le bec.
Alors, bon, évidemment, attention, Jacqueline Orgeix, vous parlez des mâles.
Ah bah oui, bien sûr.
Oui, parce que
c'est toujours les mâles qui draguent, si on peut dire.
Comme d'habitude, les femelles sont très modestes. Voilà.
Oui.
Mais ce qu'il y a de drôle aussi, c'est quand on les voit, certains doublent vraiment de volume. Ils gonflent le jabot, ils écartent les ailes.
Ah oui, puis il y en a aussi qui dansent, qui se roulent par terre.
Qui tapent des pattes, comme une danse vraiment...
Qui font des danses,
Et cette gamme de couleurs chatoyantes, c'est
incroyable,
magnifique.
Incroyable.
Oui.
Et chaque fois, les femelles en sont complètement éblouies. Elles craquent.
Alors, donc, elles acceptent le mâle. Alors, je ne sais pas, on va peut-être pouvoir parler de la vie de couple. Et là aussi, vous avez repéré un petit extrait sur la vie de couple des oiseaux. Alors, sont-ils fidèles ou pas?
Ça dépend, c'est comme chez les humains. Bon. Les choucas sont strictement monogames et ne se séparent jamais. Les goélands forment aussi des couples unis pour la vie, mais ils se quittent après la nidification et se retrouvent la saison suivante pour entamer un nouveau cycle. Le bruant broyer a de nombreuses femelles. Il construit des nids et les surveille en se posant sur un fil électrique. Quant aux moineaux, ils copulent au hasard, sans règle ni ordre. Alors, toutes ces formes de sexualité existent donc chez les oiseaux, comme si chaque espèce avait un comportement particulier de l'être humain aussi, qui reflète de multiples aspects de la sexualité. Mais peut-être ce sont les comportements humains qui reflètent ceux des oiseaux. Bon, ou l'inverse, on ne sait pas.
Oui,
trop.
On ne va pas.
Il y a la même diversité. Si
voilà. Oui, alors c'est drôle, les moineaux, tête en l'air, les moineaux,
cervelle
de moineau.
N'importe quoi. Oui.
Voilà, n'importe quoi. Mais j'avais lu quelque part, alors je ne sais pas si là il n'en parle pas, je pense, que certains mâles, c'était les mâles dans certaines, je ne sais plus pour quelles. Qui couvaient.
Oui, mais très peu. En général, c'est quand même la femelle. C'est quand même la femelle.
Alors, justement, on parle de couvaison. Parlons des nids. Alors là, les nids, il y a un petit chapitre un peu plus long, un petit extrait sur les nids. Là aussi, grande diversité d'emplacements, de formes, de couleurs même.
Oui. Ça, c'est quelque chose de très différent. Alors, comme le comportement sexuel, les nids varient en fonction des espèces. Les faucons, les pétrels, les engoulevents déposent simplement les œufs dans des petites dépressions naturelles, à même le sol. Le chouka et les graves pondent dans des creux d'arbres ou dans des rochers tapissés de plumes et de débris végétaux. Les fous bassants, les cormorants, les pétrels végétaux, des algues, sur des falaises ou des rochers. Un oiseau antarctique, le padegrome, fait un nid dans la neige. Ça, c'est extraordinaire. Les martins-pêcheurs et les macaremoines ont des nids plus élaborés. Ils creusent de véritables terriers qui font parfois 2 mètres de profondeur pour y déposer leurs œufs. Les perroquets, les étourneaux, utilisent des cavités dans les arbres creux et les garnissent de débris végétaux. Les hirondelles continuent leur nid avec des mélanges de terre, de brindilles, de plumes et il les lie ensemble avec de la salive. Ça, c'est extraordinaire aussi. Un des nids les plus impressionnants est celui de la cigogne, qui peut atteindre 2 mètres de hauteur et peser 40 kilos. Mais les nids les plus extraordinaires sont peut-être ceux de certains tisserins, dont le travail évoque le tissage humain. Ils assemblent d'une façon parfaitement régulière des longues lanières d'écorce. Ce nid est fixé à l'arbre par plusieurs variétés de nœuds. Donc ils font des nœuds, c'est incroyable. De manière tout aussi surprenante, nous avons la fauvette couturière de Ceylan, qui perfore les feuilles sur le bord avant de passer dedans une fibre végétale pour les assembler.
Une couturière.
Oui, une couturière, carrément.
Oui, alors ça
alors,
aussi.
Tout ça, c'est très différent aussi.
Oui, comme chez les humains. Finalement, il y en a qui s'installent là où ils peuvent, ils se posent. D'autres qui fabriquent d'une manière simple mais efficace. Et d'autres qui sont des artistes.
Oui, artistes. Oui, c'est très curieux.
Voilà. Et alors, on s'interroge, on aimerait savoir plus pour les pauvres petits oisillons qui naissent dans la neige.
Ah ben ça, ils n'en parlent pas parce qu'ils disent simplement qu'ils font leur nid dans la neige. Moi, j'ai entendu parler un jour, mais là, ils n'en parlent pas. Je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait un oiseau qui déposait ses œufs dans les vagues. Mais ça me paraît un peu invraisemblable parce que comment couver, comment... Enfin, c'est bizarre.
Oui, il vogue la galère.
Oui, ça c'est...
Alors, en ce qui concerne l'œuf lui-même, lorsque les oiseaux se posent et demeurent sur Terre, c'est pour mettre au monde et s'occuper d'un objet étrange qui a toujours fasciné l'homme, l'œuf. C'est une sorte de matrice minérale fermée au regard extérieur, étrangère à la mer qui l'a pondue, et pourtant c'est elle qui gestera secrètement l'oiseau. Pour éclore, il demande simplement une température à peu près constante. Donc dans la neige, il faut que le froid soit constant.
Oui, ça me paraît bizarre.
À l'intérieur se produit spontanément toute une alchimie mystérieuse qui aboutit à l'éclosion du poussin. Cet objet singulier a servi de modèle à beaucoup d'anciennes cosmologies. L'univers est lui aussi né d'un œuf mystérieusement issu de l'océan primordial. C'est l'œuf de Brahma de la mythologie hindoue qui se divise en 2 moitiés. L'une d'or, l'autre d'argent. Entre les deux apparaissent les montagnes, les nuages et les rivières. De même dans la religion originelle du Japon, le Shinto, l'œuf premier, se scinde en deux parties pour donner naissance au ciel et à la terre, entre lesquelles l'homme et la nature pourront s'épanouir, etc. etc. En fait, on voit que le thème de l'œuf a donné naissance à beaucoup d'histoires mythologiques, finalement, oui, d'interprétations oui, mythologiques.
Oui, déjà la forme de l'œuf, c'est extraordinaire.
Oui, et on voit également dans certains tableaux de nos peintres plus contemporains
oui,
aussi.
Oui,
oui, oui. Voilà. Alors donc, leurs amours, on en a fait un petit peu le tour, mais on en parlerait longuement, évidemment. Et quant à leur vie sociale, alors là, il y a des amitiés, mais il y en a qui exagèrent également. Alors, on parlera du coucou, mais d'abord, les amitiés des oiseaux. Alors, je ne sais pas où on peut trouver... Est-ce que vous avez la page, Jacqueline Dangex?
L'amitié des oiseaux.
L'amitié des oiseaux, je ne sais plus où ça se trouve.
Mais enfin, de toute façon, c'est... Les mœurs, moi, on avait parlé une fois, mais je ne sais pas si ça existe vraiment. C'était un couple d'oiseaux qui vivaient collés l'un contre l'autre, et donc ils ne se servaient que des deux ailes extérieures. Ce qui fait que quand l'un mourait, évidemment, l'autre tombait et mourait aussi.
Je ne crois pas que ce soit les inséparables, parce que vous connaissez le thème du film d'Hitchcock, les inséparables.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Pourquoi oui. Les oiseaux ont-ils attaqué cette jeune femme, ce couple?
Oui, 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 oui.
Parce qu'on avait séparer les oiseaux oui. chez l'oiseleur.
Oui, oui.
Hein, il y avait
oui.
cette histoire.
Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être une...
Alors l'amitié, des oiseaux,
l'amitié des oiseaux,
sont-ils amis?
Saint François d'Assise est connu pour avoir prêché aux oiseaux. C'est du moins ce que racontent les Fioretti. Un jour, alors qu'il cheminait avec ses compagnons, tous les oiseaux des alentours vinrent auprès de lui. Il commença à leur parler et les oiseaux restèrent immobiles, alors même que le saint marchait parmi eux. Il est touché de sa tunique, jusqu'au moment où il finit son sermon. Mais saint François est sans doute le seul humain à avoir sermonné les volatiles. À part peut-être certains pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, il n'est pas le seul à avoir eu une relation d'amitié avec les oiseaux. Je me rappelle notamment un vieil homme qui avait recueilli 4 corbeaux, 3 pies, un épervier et 2 grosses buses. Et tous ces oiseaux... logé dans des arbres près de sa maison, et dès qu'il franchissait les grilles de sa demeure, il leur devenait rencontrer comme des chiens fidèles, ils venaient vers lui. Il me racontait comment les plus vieux corbeaux le réveillaient quelquefois le matin en frappant de son bec contre le carreau de la fenêtre. Et aussi l'épervier qui lui ravissait tous ses objets brillants et les cachait dans des endroits les plus invraisemblables. Et les pies, en mal d'affection, passaient de longues minutes perchées sur son épaule à frotter leur bec contre son visage. Donc on voit qu'il peut y avoir une amitié. Et moi je connais pas mal de gens qui ont des oiseaux qui habitent tout près de leur maison. Et effectivement, ces oiseaux viennent sur la fenêtre et leur font des signes pour qu'ils se réveillent ou tapent au carreau jusqu'à ce qu'ils ouvrent la fenêtre. Enfin... Oui. C'est une sorte d'amitié.
Oui, oui, oui. Une relation qui s'est instaurée.
Une relation amicale.
Alors, avant d'écouter un extrait d'une œuvre que j'aime moi aussi beaucoup, que vous avez choisi, Jacqueline Dorjet, c'est un extrait de Summertime, chanté par Ella Fitzgerald et Armstrong. Est-ce qu'on peut parler du coucou?
Le coucou. Alors, le coucou... Attendez, parlez-moi.
Bon, alors on va peut-être écouter d'abord Summertime.
Voilà, oui.
J'ai toujours grand plaisir à écouter cette musique. Thank you.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà, et en compagnie de Jacqueline Dorjex, nous parlons de l'ouvrage d'Éric Sablé, La sagesse des oiseaux. On parlait de la vie sociale des oiseaux, on parlait de l'amitié qu'ils pouvaient éprouver, même à l'égard des hommes.
Oui, oui.
Mais il y a également des oiseaux qui sont de redoutables gredins.
Ah, oui.
Par exemple, le coucou.
Ah, bah,
vous
oui.
pouvez nous lire un petit extrait de l'histoire
Oui.
Voilà.
Alors attendez,
donc, il s'agit du coucou.
C'est donc l'histoire de ces affreux coucous. Moi, j'en ai beaucoup dans mon parc et je les vois, et c'est des animaux absolument terribles. C'est quelques espèces d'oiseaux.
Des pique-assiettes, en fait.
En particulier, le coucou d'Europe utilise les nids des autres oiseaux pour sa couvaison. La femelle parasite une espèce déterminée d'oiseau qui demeure toujours la même. Le processus de l'ovulation, d'ailleurs déclenché par la vue du nid de l'espèce parasitée, tous les deux ou trois jours, elle déposera discrètement ses œufs dans ce nid étranger, soit en pondant directement à l'intérieur ou en portant des œufs dans son bec pour les déposer. Le plus curieux est que l'oiseau coucou imite parfois à la perfection l'œuf de l'espèce parasitée. Par exemple, si le coucou pond dans le nid d'une fauvette, l'œuf sera semblable à celui de la fauvette. Mais s'il est dans celui d'une grive, il prendra le caractère du nid de la grive.
Et... Voilà. Oui, ouais. on va dire à nos auditeurs de lire ce livre,
oui,
de lire
oui.
cet ouvrage.
Oui.
Alors, évidemment, on ne peut pas parler des oiseaux sans parler de leur chant. Alors, par exemple, le chant des oiseaux, il a à plusieurs endroits, si vous permettez, je vais, hop, et je vous repasserai à plusieurs endroits. Évidemment, il parle du chant des oiseaux, Éric Sablé, bien entendu. Il dit « Le pinson des arbres est un petit oiseau très commun au poitrail rouge et à la tête gris-bleu. Le naturaliste anglais Thorpe l'a beaucoup étudié. Il a montré par des expériences précises la part de l'inné et celle de l'acquis dans leur chant. Tous les pinsons ont en commun une phrase musicale unique. Isolée depuis l'enfance, il la répétera spontanément. Mais cette phrase est pauvre. Elle est comme une structure dénuée de vie véritable. En liberté, il greffera sur elle des chants appris en imitant celui d'autres oiseaux. » Voyez le bienfait de l'éducation. C'est-à-dire qu'il empruntera des motifs musicaux à d'autres espèces. Finalement, chaque pinson aura son chant qui lui appartiendra en propre et servira à ses congénères pour le reconnaître. Voilà. Alors, j'ai appris qu'un instituteur du Gers avait dressé une corneille qui venait le réveiller à chaque matin en imitant le chant du coq.
Oui, ça c'est très joli parce que ça prouve quand même à la fois l'imitation et l'intelligence. C'est fantastique. Oui. Alors à propos du coucou, je voulais dire aussi que les œufs de coucou au moment où... de l'éclosion, ils sont déjà des monstres quand ils sortent de l'œuf, parce que s'il y a des œufs de l'oiseau qui a été parasité,
il les balance par-dessus bord. Alors j'aimerais, Jacqueline Orgex, que vous nous lisiez deux passages, le langage des oiseaux, la langue des oiseaux, pardon, et les oiseaux parleurs. Alors voilà.
Oui, alors...
Toujours, on est dans les champs.
Le langage des oiseaux. Alors, les oiseaux parlaient d'une langue des oiseaux. Elle était la langue secrète des initiés, celle qui dit la réalité du monde. Mais pourquoi attribuer à l'oiseau la parole juste? Parce qu'elle est là, la langue du ciel, qui s'oppose au langage artificiel des hommes. Et d'autres termes, elle est en langue primitive qui nomme les êtres et les choses selon leur vrai son. La vibration des formes créatrices, les constituant. Ainsi est la musique vraie. Les pierres des plantes, les animaux le montrent, ainsi que les rivières et les montagnes.
Alors, ne quittez pas l'ouvrage. À la page 31, il parle des oiseaux parleurs, c'est-à-dire... Les oiseaux parleurs, page 31.
Oui, les oiseaux parleurs. Alors, on connaît l'histoire de cet ecclésiastique anglais venu voir le premier gorille au zoo de Londres. Il se plaça devant lui, le fixa dans les yeux et lui dit « Si tu parles, je te baptise ». On a beaucoup d'oiseaux qui savent parler. Si on les dresse avec suffisamment d'attention et de patience, non seulement les perroquets ou les minates, mais aussi les geais, les pies, les étourneaux, les bouvreuils, peuvent répéter des phrases entières. Faut-il baptiser tous les oiseaux parleurs? Voilà. Ça, c'est assez amusant comme,
oui.
comme
oui,
idée.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui arrivent à communiquer. C'est là aussi leur sens de la vie sociale.
Oui, oui. Puis il y a vraiment une variété de comportements incroyables, incroyables.
Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, bon, ils chantent, on a l'impression qu'ils chantent en l'air pour leur propre bonheur.
Oui, oui, oui.
Mais dans la nature, je lis, des couples d'oiseaux comme les fauvettes cisticoles dialoguent souvent entre eux. Le mâle chante un certain motif musical et la femelle répond avec le sien, un duo donc.
Oui.
Lorsque l'un des deux partenaires s'absente, l'autre reprend la totalité du chant.
Oui.
Ils comblent leur solitude en appelant l'autre qui leur manque. Beaucoup de perroquets ou de ménates parlent en l'absence de leur maître. En fait, ils l'appellent en émettant ce qui leur semble être sa parole de reconnaissance. C'est extraordinaire.
Oui. Mais ça, moi, je les entends chez moi, ces oiseaux qui chantent, et puis un qui répond un peu plus loin, puis l'autre répond, ils se répondent comme ça. C'est très extraordinaire.
Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de l'intelligence des corbeaux. J'ai vu qu'on leur avait fait passer des tests incroyables.
Ah, les corbeaux, il paraît que c'est... On a même dit pendant le confinement que les corbeaux, il suffisait qu'il y en ait un qui se place sur un arbre pour voir s'il y avait un risque. Et il disait, c'est dommage que pendant le confinement, il n'y ait pas un homme qui soit aussi intelligent que le corbeau et qui voit s'il y a un risque de contamination.
On va dresser les corbeaux. Alors, selon les livres...
Non, les ministres.
oui. Selon les livres, dit Éric Sablé, le grand corbeau émet un roc ou un croap profond qui n'est pas le crac du corbeau freux. Mais lorsqu'il parade, il fait un clong, creux. Par contre, pour alerter ses congénères, il émettra un arc insistant. Avec cela, vous avez une première initiation à la langue corbeau.
Oui, mais ça, moi, je les vois tous les matins, les corbeaux qui chassent les pigeons et ils appellent les autres corbeaux, ils se jettent dans les nids des pigeons et ils flanquent les œufs par terre. Et je suis très contente parce que les pigeons me bousillent les toits.
Oui, j'ai bien compris que vous n'aimiez pas les pigeons, que vous préfériez les corbeaux.
C'est les seuls oiseaux que je n'aime pas.
Voilà, alors on pourrait parler aussi de leur déplacement, parce qu'ils font des migrations incroyables. Par exemple, la plus longue...
Ah oui, celui qui fait 18 000 kilomètres en Antarctique.
Ah oui, hein,
absolument
oui.
Incroyable. Pardon. Merci. Oui, ça c'est une migration inutile et merveilleuse. Alors, le sterne arctique est un oiseau blanc, à la tête noire, aux ailes argentées, une sorte de mouette que l'on rencontre l'été sur les côtes de la Bretagne. Elle niche au nord du cercle arctique boréal. Mais chaque année, elle a la curiosité de passer l'hiver en Antarctique, à l'autre pôle de la Terre. Elle traverse l'Atlantique, l'Europe, l'Afrique, passe le cap de Bonne-Espérance vers la Patagonie pour atteindre l'Antarctique. Et c'est là qu'elle hiverne. Un petit voyage de 18 000 km pour avoir le plaisir de voir d'autres glaciers, d'autres icebergs, d'autres plaines glacées. Voilà, ça c'est assez curieux parce que finalement c'est un voyage complètement inutile, mais qu'ils font quand même, quoi. Bon, c'est assez étrange.
Voilà, alors peut-être pourrions-nous écouter, puisque nous parlons de déplacement et qu'il y a des oiseaux qui sont en cage. Je n'aime pas trop voir les oiseaux en cage, pour tout vous dire. Nous allons peut-être écouter Pierre Perret qui chante « Ouvrez », du moins un extrait.
« Ouvrez
la cage aux oiseaux ». Voilà.
Idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage! Mes chères madames, on vous demande au troisième étage. Et des clabignoles au ras le dos tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Et Jacqueline Dorjex qui vient nous parler de l'ouvrage d'Éric Sablé, La sagesse des oiseaux. Et oui, alors on a évidemment écouté une partie de la chanson de Pierre Perret et d'un chœur d'enfant très très joli, très agréable à entendre, parlant d'ouvrir la cage aux oiseaux, puisque nous parlons de leur déplacement. C'est assez étonnant, les déplacements des oiseaux.
Oui.
Ça reste un mystère quand même. Hein. Il y a des oiseaux qui n'ont jamais voyagé. Il paraît qu'il y a une hirondelle qu'on transporte loin, à 300, plus de 300 km, et elle va retrouver son chemin.
Oui, même si c'est la nuit. Oui. Parce qu'il paraît que là, elle se guide avec les étoiles.
Voilà. Alors, il y en a qui se guident avec des repères visuels, oui, oui. D'autres en fonction du soleil. En fait, on ne sait pas exactement.
Non, hein, non, on n'a pas trouvé, vraiment.
Voilà. Alors, quant à la migration des hérons cendrés, c'est très étonnant. Il paraît qu'ils ne migrent pas quand ils sont en Angleterre.
Ah oui, oui, oui.
Ils se trouvent bien en Angleterre,
ah, oui, oui, ça,
probablement.
Ça, c'est très drôle, oui, oui.
Oui, voilà. Ils se sentent aimés. Ils sont un peu différents, comme les Anglais, ils sont un peu différents des, oui, des, oui, Européens,
oui,
terriens.
Oui, oui. Voilà. Et il dit que c'est peut-être leur façon de conduire à gauche. C'est assez drôle.
Voilà. Alors, évidemment, et l'altitude de migration, c'est assez étonnant aussi de voir certains petits oiseaux qui volent entre 900 et 1500 mètres. Et plus encore, le pluvier doré et le vanneau montent à 2000 mètres. La grue à 4300 mètres, les gypaètes courlis, chouka à 6000 mètres, et le record absolu est détenu par l'oie. L'oie cendrée de Sibérie hiverne dans le nord de l'Inde. Elle doit donc passer au-dessus des hauts plateaux himalayens à plus de 8000 mètres d'altitude.
C'est incroyable, incroyable.
C'est incroyable, oui. Oui. Alors, je sais que vous aviez envie de me parler de l'oiseau d'argile.
Ah oui, ça c'est l'oiseau d'argile, c'est l'histoire de Jésus enfant qui aimait bien fabriquer avec de l'argile des petits oiseaux et puis il soufflait dessus et l'oiseau d'argile s'envolait. Alors ça c'est une histoire assez extraordinaire parce que on pense que peut-être il faisait ça uniquement par plaisir, ou bien c'était pour nous prouver quelque chose. Enfin, c'est une histoire très extraordinaire.
Oui. De même qu'il y a un conte également.
Un conte, oui, qui est très, très, très joli. Oui.
Oui, vous voulez le lire?
Oui.
C'est très court.
Ça, c'est une histoire qui est connue, mais qui, je trouve, est très, très sympathique parce qu'elle donne bien l'idée du chant des oiseaux. Dans beaucoup de légendes, le chant des oiseaux possède le pouvoir d'effacer le temps, puisque l'oiseau est l'irruption du ciel sur la terre, donc l'éternité. Son chant peut transporter dans un univers autre, ce qui illustre parfaitement un conte moyenâgeux où un moine, parti ramasser des plantes médicinales, entendit un oiseau au chant merveilleux. Il le suivit, fasciné, et resta un moment à l'écouter. Quand il revint, un inconnu lui ouvrit. Il ne reconnaissait personne, personne ne le reconnaissait. Seul un moine, particulièrement âgé, avait entendu parler de lui dans son enfance. Il avait, en fait, passé un siècle dans la forêt à écouter l'oiseau. Ça, c'est une histoire un peu philosophique.
Oui, oui.
Ça veut
oui,
dire
oui,
que
oui,
quand
oui.
quelque chose est merveilleux, on ne voit plus le temps passer, quoi.
Exactement. Ouais. Et il y a également autre chose d'intéressant. L'ornithomancie, la divination par l'observation du vol des oiseaux ou l'écoute de leur chant fut très largement pratiquée durant toute l'Antiquité. En Grèce, elle était réellement répandue, tellement répandue que le mot grec pour oiseau, orni, voulait dire présage. De même, les auspices romains regardaient si l'oiseau battait des ailes ou planait, volait en suivant une ligne courbe ou droite, s'il venait de la droite ou de la gauche, pour en conclure des prédictions relatives aux événements de la cité. Les oiseaux sont la parole du ciel, la parole des vérités. C'est le même principe qui poussait parfois les anciens à bâtir en fonction des étoiles pour donner à ce monde sublunaire, mouvant, une base fixe, l'ancrer dans le ciel. Mais il n'est nullement besoin de remonter si loin pour trouver de telles pratiques. Il y a quelques années, j'avais un ami qui jouait au tiercé oiseau. Lorsqu'un vol d'oiseau traversait la route devant lui ou passait devant sa fenêtre, il les comptait et inscrivait ce nombre sur ses petits bulletins. « Parfois je gagne », m'affirmait-il.
Oui, oui. Non, mais ça, c'est connu que très souvent, d'après le vol des oiseaux, on décidait s'il fallait entrer en guerre ou pas, ou s'il fallait se marier, ou s'il fallait... Par rapport à ça, au vol des oiseaux, oui. C'est extraordinaire.
Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous voudriez communiquer à nos auditeurs On a fait un large tour, mais il y a beaucoup de choses encore, évidemment, qu'il faut lire.
Ça aurait été, nous n'avons pas le temps, mais ça aurait été une grosse bêtise de tout lire. Parce que ce qui est important, c'est que les auditeurs se procurent ce livre et le lisent. Parce que c'est un régal, ce sont des petits chapitres, chacun est un petit bijou différent. Donc la lecture est merveilleuse.
Alors, si vous le permettez, je vais également donner à nos auditeurs quelques renseignements, à savoir que, par exemple... ils peuvent aller sur Internet pour voir reconnaître les oiseaux et leurs chants. Les oiseaux, c'est-à-dire qu'il y a des dessins avec leurs couleurs. C'est www.oisillon-jardin. Alors je répète, www.oisillon.net/fr/apprendre-reconnaître-oiseau-2-jardin. Et je voulais également proposer à nos auditeurs, puisque nous avons encore un peu de temps, la lecture de certains ouvrages qui parlent d'oiseaux, parce que finalement, c'est vrai que les oiseaux ont beaucoup inspiré nos écrivains, et je pense en particulier, il y a eu Le Pigeon de Suskind, peut-être l'avez-vous lu, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson, à travers la Suède, de Selma Lagerlöf, bien entendu. Il y a également le très connu, et des jeunes, mais même des moins jeunes, Jonathan Livingstone, Le Goéland, de Richard Bach. Il y a également Birdie de William Wharton, très, très, très émouvant. Les Oiseaux des Neiges de William Finch, je ne sais pas comment il faut prononcer là. La Mélancolie des Corbeaux de Sébastien Rutès, une fable noire époustouflante. Éloge de l'oiseau d'Henri Brunel. Éloge des oiseaux, Giacomo Leopardi, qui disait « C'est vraiment un grand réconfort et un grand plaisir que procure autant, me semble-t-il, aux animaux qu'à nous-mêmes, le chant des oiseaux. Je crois que cela tient moins à la douceur des sons, à leur variété ou à leur harmonie, qu'à cette idée de joie qu'exprime naturellement le chant, en particulier celui-là, lequel est une sorte de rire que l'oiseau émet lorsqu'il est plongé dans le bien-être et le contentement. » Voilà. Alors, évidemment, Georges Brassens, également, qui est un poète, on le sait, qui disait dans Les Oiseaux de Passage, « Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Oui. » Et pour terminer, Jacqueline Dorjac, j'aimerais bien que vous me lisiez ce très beau poème de Victor Hugo, si vous voulez.
La nichée sous le portail, de Victor Hugo. Au grand temple où l'on prie, le martinet frais et pur suspend la maçonnerie qui contient le plus d'azur. La couvée est dans la mousse du portail qui s'attendrit et sent la chaleur douce des ailes de Jésus-Christ. L'église où l'ombre flamboie vibre émue de ce doux bruit. Les oiseaux sont pleins de joie, la pierre est pleine de nuit. L'oiseau qui perche sur l'ange, l'apôtre rit sous l'arceau. « Bonjour, saint, dit la mésange. Le saint dit, bonjour, oiseau. Les cathédrales sont belles, les hautes sous le ciel bleu, mais le nid des hirondelles est l'édifice de Dieu. » Ouais, c'est très beau.
Oui, merci Jacqueline Dorjac et merci de nous avoir fait rencontrer Éric Sablé. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de La Sagesse des Oiseaux, paru aux éditions Zulma.
Voilà, merci Monique Fauché de m'avoir invitée.
Et à bientôt,
j'espère. C'était très sympathique, à bientôt.